Les pieds sur terre, quartier d'été, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Au mois de mai 2017, sur les marches du Palais des Festivals à Cannes, il est apparu sans qu'on s'y attende, brusquement, dans le film de Yorgos Lanthimos, La mise à mort du cerf sacré, inspiré de l'histoire d'Iphigénie, sacrifiée pour calmer la tempête et échangée au dernier moment avec un cerf. Il faut dire que dans la mythologie et la liturgie en général, le cerf se pointe toujours à un moment en figure christique, en animal sacrificiel ou en majesté, en surpuissance virile. Il la ramène avec ses bois un peu arrogants, il fait cavaler les chasseurs, en impose au seigneur, aux veneurs et aux chiens. Mais à la fin, ce sont quand même eux qui triomphent de cet adversaire à leur hauteur. Plus récemment, l'animal a défrayé la chronique avec quelques petits films qui ont circulé à son sujet et dont nous allons vous parler aujourd'hui, tout en nous demandant pourquoi cet engouement soudain. En quoi est-il révélateur de notre rapport à l'animalité, à la nature, à la forêt ? Que racontent ces chasses aux cerfs ancestrales qui se pratiquent encore dans nos forêts et que l'on nomme chasse à cours ? Que disent-elles des relations entre les différentes classes sociales qui s'y retrouvent ? Le cerf permet-il de les rapprocher, comme le pensait Georges Marchais, adepte, figurez-vous, de la chasse à cours qui y voyait un loisir susceptible de provoquer des rassemblements populaires ? Ou au contraire, le cerf permet-il d'opérer une distinction très nette et de laisser soigneusement chacun à sa place ? À moins que l'animal ne nous aide enfin à comprendre de nouvelles lignes de fracture qui traversent notre riant hexagone. C'est ce qu'interroge et raconte Olivier Minot, provisoirement gagné à la passion du cervidé, tout de suite dans les pieds sur terre, quartier d'été, trois histoires de cerfs. Vous écoutez France Culture.
Déjà retrouvé devant un cerf et quand il te regarde, c'est assez intense quand même. Parce qu'avec ses bois énormes autour de son visage assez petit, c'est assez puissant comme image.
Depuis le début de l'automne, j'entends sans cesse autour de moi des histoires avec des cerfs.
On s'est regardé 2 minutes, puis après il est parti, mais c'était...
Mon ami Marcan, fou de la forêt, approche cet animal au plus près.
On dit que c'est le roi de la forêt, voilà, mais c'est un roi assez humble en fait.
Au cinéma, je vais voir un film hongrois, Corps et âme, dans lequel 2 employés d'un abattoir se rendent compte qu'ils font chaque nuit le même rêve. Lui est un cerf, et elle une biche, et ils gambadent amoureusement dans la forêt.
J'ai vu Princesse Mononoke en coupe la tête au cerf, et de son corps sort des énormes nuages et forme une grosse chape comme ça d'orage.
Et puis il y a eu cette vidéo virale sur internet.
Mais laissez-le.
Vidéo d'un collectif pour l'abolition de la chasse à cours.
Mais qui reste ? Mais ne pas l'énerver ! Il faut le laisser !
On y voit un chasseur, Alain Drache, qui abat un cerf dans un lotissement en lisière de forêt de Compiègne.
Laissez-le ! Mais non, vous ne savez pas !
Ça s'est passé le 21 octobre, dans la petite ville de La Croix-Saint-Ouen, rue des Veneurs. Les Veneurs, c'est le nom qu'on donne aux chasseurs à cours. Pour y accéder, on passe par la rue du Saut du Cerf. Ça s'invente pas. Je me rends sur place et je rencontre Violette, qui était là le jour de l'incident.
Quand je suis arrivée, le cerf, ça faisait 20 minutes qu'il était dans le jardin. Il était couché, voilà, tranquillement, pas blessé. Et il y avait un attroupement autour du portail, il y avait des enfants, tout ça. Tout le monde était impressionné de voir un beau cerf comme ça. Tout le monde était content, en fait, finalement, de pouvoir le voir. Et Alain Drache longeait le portail en criant des « hé, hé, comme ça au cerf, voilà, en l'effrayant, en fait. Alors que je pense que c'était la chose la plus dangereuse à faire. Si on voulait que le cerf ne soit pas dangereux, fallait pas l'exciter, fallait pas l'énerver. Donc voilà, tout le monde criait « laissez-le, laissez-le ». Et finalement, le cerf, c'est là où il a sauté la clôture, il a sauté de jardin en jardin. Donc là, Alain Drache, avec un autre veneur, ils sont entrés dans la propriété, dans le jardin, et voilà, ils lui ont donné des coups de fouet, soi-disant pour le faire repartir en forêt, alors que bon, je pense pas que ce soit la chose à faire. Le cerf, à la fin, il a du sang sur sa bouche, ouais. Enfin, il était blessé, du coup, après 45 minutes de coups de fouet, je pense qu'il devait être fatigué. Et là, on entend 2 détonations, quoi. Et donc, voilà, ils l'ont tué à ce moment-là. on est tous choqués parce que, mais c'est ce qui se passe plusieurs fois par semaine en forêt. C'est juste que d'habitude c'est à l'abri des regards, donc c'est quotidien, c'est de l'horreur comme ça toutes les semaines dans la forêt de Compiègne et dans d'autres forêts en France. On veut pas la guerre, nous, dans nos forêts. On a marre des coups de feu, on en a marre des cris, des aboiements des chiens, des sons des corps. C'est plus ça, la forêt, aujourd'hui. Je crois qu'il faut qu'on comprenne qu'on a un autre rapport à la nature, qu'on a évolué. Je crois que c'est une minorité, quand même, qui, aujourd'hui, qui chasse à court, par exemple, juste pour parler de la vénerie. C'est un loisir d'une minorité. Moi, je peux pas comprendre un tel loisir, le plaisir de tuer, le plaisir de torturer, le plaisir... Je comprends pas. On sera là jusqu'à l'abolition.
J'ai aucun plaisir à ça, je vais vous faire peut-être sourire. J'ai des moutons chez moi, si je vous invite et qu'on fait un méchoui, je suis incapable de tuer un mouton. Incapable. Alors, j'aime bien pourquoi vous tuez un cerf. C'est servir les chiens. D'ailleurs, quand on met à mort l'animal en question, on le sert.
L'homme qui a tué le cerf sous les yeux de Violette, c'est lui. Il s'appelle Alain Drache.
Mon équipage... Depuis 1961, a pris près de 1600 cerfs. J'ai dû en servir, j'en sais rien, 1200, 1300 dans ces eaux-là, oui. Mon grand-père s'appelle James de Rothschild et ma mère s'appelle Monique de Rothschild. Mon grand-père s'était installé à Compiègne en 1926 pour y chasser la cour. Je suis tombé dedans comme Obélix et tombé dans la soupe. Et j'ai dû commencer à chasser il y a 50 ans. Et il y a 26 ans, je suis devenu le second de ma mère, qui, elle, était maître d'équipage. Et quand ma mère a décidé de ce qu'on appelle passer le fouet, c'est-à-dire passer la direction à quelqu'un d'autre, elle me l'a naturellement passé, puisque j'étais son second, quoi. C'est le lieutenant-colonel qui devient général.
Alain Drache m'a donné rendez-vous dans son chenil.
C'est une heure.
Il est propriétaire de 130 chiens de race.
Alors, il y a des gens qui me disent, mais comment est-ce qu'on arrive à les reconnaître? Mais je veux dire, si vous regardez à l'aéroport un avion de japonais qui arrive, vous avez l'impression qu'ils se ressemblent, les japonais. Et eux, quand ils nous voient, ils ont l'impression que nous nous ressemblons. Le grand chien jaune qui est là, il s'appelle Ramon. Et les grands chiens jaunes, il y en a d'autres. Hein, Ramon? Oui, mon gars. Ramon.
Le chenil est en plein cœur de la forêt de Compiègne, à côté de la maison forestière de Vineux, qui est la base de son équipage de chasse à cour, nommé les Amis de la Futaie.
Jazz, dépêche-toi.
Et c'est dans la maison qu'il me raconte sa version de l'incident du jardin de la Croix-Saint-Ouen.
On a fait une chasse formidable. On a attaqué un cerf, de mémoire, 10h15 du matin, sur le plateau en Haute-Compiègne, en bordure sud. Ce cerf a rusé tant qu'il a pu, a trouvé quelques animaux pour les livrer aux chiens. Il a doublé ses voies, il a fait les ruisseaux, il s'est défendu. Au bout de 50 km, ce cerf s'est fait aboyer à proximité du village de la Croix-Saint-Ouen. Il a rompu les abois, c'est-à-dire qu'au lieu de rester avec les chiens autour de lui, bah, il a bourré les chiens, il est reparti, et il a sauté un grillage qui était à 50 mètres, et il est rentré dans une propriété privée. À partir de là, l'éthique veut qu'on gracie le cerf. C'est-à-dire que même si les chiens rentrent dans le village, ce qui peut arriver, on retire les chiens. Pour nous, la chasse est terminée. Si je puis dire, on remballe chiens, chevaux et équipage. Mais la loi, c'est pas moi qui l'invente, nous rend responsables de l'animal qu'on a amené aux abois. Le cerf rentre dans un village, on ne peut pas le laisser là. On ne peut pas m'en aller en me lavant les mains, en me disant « moi je l'ai gracié, c'est pas mon sujet ». C'est mon sujet. Donc, je suis rentré dans le village pour voir de quelle manière on pouvait le renvoyer en forêt. Tout ça sous l'œil de la gendarmerie. Sauf que, l'image paraît peut-être un peu grossière, mais un cerf, ça n'est pas le papa de Bambi. C'est un animal sauvage. Il y a un petit attroupement avec deux excités, dont un qu'on connaît bien, c'est un anti-chasse notoire. Le propriétaire n'est pas là, j'ai pas les clés. Pour rentrer, il faut passer par-dessus la barrière. J'y rentre absolument sans armes. La seule chose que je prends, c'est un fouet pour pousser gentiment le cerf devant moi. Et je dis bien gentiment. Jamais il a voulu sortir. J'ai essayé qu'il me charge. J'étais avec un jeune homme qui m'aidait. Oui, il nous a chargé jusqu'au moment où, au bout de 50 minutes, les gendarmes ont dit « Stop, c'est trop dangereux, on ne peut pas le laisser là, il faut l'éliminer. » Ce n'est pas une action de chasse qu'il me demande de faire. Je n'ai pas servi ce cerf. C'est un cerf que j'ai tué, que j'ai éliminé, avec un fusil que j'ai sur mon cheval, à la demande parfaitement justifiée de la gendarmerie. Voilà. Après ça, on l'a dépouillé et on a donné la carcasse et les bas morceaux au chien. Et le lendemain matin, un antichasse très connu ne trouve rien de mieux que de faire une affiche. Il met une photo de moi avec mon nom en me traitant d'assassin. Il indique mon adresse mail privée. Il met ça sur sa page Facebook et les réseaux s'enflamment. Et là, je me prends un tsunami dans la tête, mais un tsunami invraisemblable, d'insultes, de menaces de mort. Ça va jusqu'à l'antisémitisme. Moi, je suis juif. Quand vous recevez un mail qui vous dit « Pour ta faim que je vais arranger d'une manière très proche, je te réserve une place dans mon four », c'est quand même au-delà du réel. Notez que le lendemain, j'en ai une qui est tout aussi raciste, qui me dit « Plutôt que de tuer des cerfs dans une propriété privée, pourquoi tu tues pas des Arabes et, si possible, des classés S ?» Mais les gens, ils pètent les plombs. Voilà l'enveloppe de mes mails. Il m'en reste 1350 que j'ai pas ouvert, que j'ai nettoyé. J'en ai déjà nettoyé 4000, parce qu'au milieu de ça, il y a des mails importants pour moi. Voilà. Hop. Allez, en voilà un joli. Alain Drache. Si j'ai la chance de te rencontrer entre quatre yeux, je te fume avec une slug, fils de pute. J'ai commis une erreur par rapport à des règlements intérieurs qu'on a avec la Société de Vénerie. La Société de Vénerie étant une association en 1901 qui regroupe l'ensemble des veneurs. On a un règlement intérieur dont un élément dit que... Si on a un incident, il faut les prévenir. Bon. Moi, je n'ai pas de téléphone sur moi, c'est pour ça que je n'ai pas appelé la Société de Vénerie. Alors, ils en ont déduit des sanctions, que ni moi ni personne ne chasse en forêt de Compiègne pendant un mois, histoire de baisser la tension soi-disant locale. J'ai chassé hier, et je rechasserai quand je veux, où je veux.
Je continue de me balader dans la forêt de Compiègne. Ici, le fils Rothschild est un personnage connu.
Maître d'équipage Drac, qui agit n'importe comment, qui a tous les droits, qui passe au travers de mon jardin, qui franchit la porte.
Tout le monde, ou presque, l'a vu un jour débarquer à cheval à côté de sa maison, avec sa meute de chiens à la poursuite d'un cerf.
Il a fait ça une année, l'année d'après, il s'est souvenu qu'il n'avait pas le droit de passer. Donc il n'est pas rentré, mais il a poussé sa meute. Et au faire voir, venez voir. Donc l'étang, il est là. Et le terrain, il est grand, donc c'est à l'autre bout. J'ai au faire voir l'autre bout. Ça commence par le fait que je travaille dans ma maison. Et le chien, il me prévient qu'il y a quelque chose. Donc je suis le chien, il m'amène au bout du terrain. Et donc là, je vois la chasse à court. Et je vois ce brave Drache qui est en train d'enjamber mon portail. Et puis là, je prends des coups de fouet. Je dis, bah, attendez, ça va bien, quoi. Le cerf, il est rentré, mais la meute, elle est l'autre côté. Et lui, ne rentre plus, parce qu'il y avait déjà eu l'histoire de la porte avant. Donc, il rentre pas. Donc, il pousse la meute dans le jardin. Les chiens, ils sont partis à droite, ils sont partis à gauche. Le cerf étant l'autre bout, il n'avait pas d'autre moyen que de se mettre dans l'eau. Et puis, la meute qui est derrière, qui l'empêche de remonter sur les berges. Bah, le cerf, c'est pas un poisson, il vit pas dans l'eau, hein. Et comme l'eau elle est glacée, bah, il meurt noyé. Il est mort dans les temps. Hein. Une fois que le cerf a été dans l'eau, il voulait le récupérer, le cerf. Mais je dis, monsieur, attendez, le cerf, non, vous ne récupérez pas mon cerf. Il me dit, vous ne pouvez rien en faire. Il faut un certificat de vétérinaire pour évaluer si la viande est consommable ou pas. J'ai contacté les Restos du Cœur, qui ont une structure bien organisée et où le boucher était un professionnel. J'ai appelé le professionnel, il m'a dit « Monsieur, moi je viens chercher le cerf, il n'y a pas de problème, et j'en chargerai. » Donc la chasse est finie comme ça. Alors si vous voulez, après, pour pas qu'il y ait de polémique et pour pas qu'il y ait de soucis, je me suis dit « Je vais quand même garder les bois. » Un mois après, les gendarmes, ils viennent chez moi, ils me disent « Monsieur, on vient chercher les bois de serre. » Bon, là, vous rêvez, là. Deux mois après, j'en ai encore de nouveau un appel d'Aurac. Il me dit « Tout serre chassé en forêt de Compiègne, la tête ou les bois sont présentés à Agnès, au comité de je sais pas trop quoi, de la chasse de je sais pas trop quoi, donc vous allez me donner les bois. » Ben, je dis « Non, monsieur, vous ne récupérez pas les bois. » Mais je dis « Par contre, je ne veux pas être en tort. » Donc j'irai moi-même présenter les bois à Agnès. Et donc les chasseurs de Agnès, ils m'ont dit « Monsieur, vous gardez, vous repartez avec. » Je dis « Monsieur, je repars avec, mais il faut savoir que je suis contraint de venir ici. Vous me faites un courrier comme quoi je ne veux pas être hors la loi. » Et ça s'est fini comme ça. Donc. Il n'a pas eu les bois. J'ai toujours les bois. Quand j'étais gamin, donc maintenant il y a plus de 50 ans, je suivais la chasse à cour. Et on parle il y a 50 ans. Il n'y avait pas de camion. Il n'y avait pas la radio comme aujourd'hui, il n'y avait pas les 4x4, il n'y avait pas toute la suite. L'animal, il avait beaucoup plus de chances de s'en sortir qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, un cerf, il n'a aucune chance de s'en sortir. Aucune. Le cerf, il s'en va, il traverse cette route, la route qui est là, il est repoussé par des voitures. Il va sur la N31, c'est des camions sans arrêt. Il monte, il n'a aucune chance de s'en sortir. C'est une barbarie d'enfer. Vous prenez la fuite des amis, ils ont un 4x4 qui font... Ils vont à travers de la forêt, n'importe comment. Ils ont des téléphones pour dire le cerf, il est passé là, il a sauté là, il va là-bas. Et tous les camions, ils sont d'un bout à l'autre sur les 200 mètres de terrain. Ils sont les camions, ils sont ces camions, ils ont tous les droits. Et ils rentrent dans le marais, ils font tout, sans problème. Et voilà, ils ont tous les droits. Mais, attendez, monsieur, vous permettriez de rentrer par-dessus une porte, de passer par-dessus une porte, comme on l'a vu à... Ben, non, ben, lui, il le fait. Et il va revenir dans la saison et il dira « Mais il n'y a rien qui m'interdit de rentrer sur votre terrain. » Je dis « Monsieur, vous le savez, ça fait des années que c'est comme ça. » Parce qu'en fait, il est protégé par tout le monde. Parce que c'est, c'est l'aristocratie, on est toujours dans la même époque, des seigneurs et toute la suite. Il s'appelle Rothschild. Et Macron, il était quoi? Macron, il était financier chez Rothschild, la banque de Rothschild. Ils sont intouchables.
France Culture, les pieds sur terre.
Quelques jours après la mise à mort du cerf dans le lotissement de la Croix-Saint-Ouen, je découvre un nouveau fait divers en forêt de Compiègne, qui résonne comme une vengeance. Ce matin-là, un cerf a tué un chasseur. Et c'était un chasseur qui n'avait pas de fusil.
J'ai reçu un coup de fil en disant, voilà, au sentier des Poireaux, il y a un cerf qui a fait face et qui a tué un rabatteur. Alors comment ça s'est passé? Tout simplement, il rabattait. Rabattre, c'est-à-dire que vous poussez les animaux vers une ligne de tir de manière à les décantonner, c'est-à-dire les décantonner, ça veut dire les faire quitter leur refuge dans la forêt ou dans les marais ou dans les ronces, pour les pousser vers une ligne de tir de manière à ce que les chasseurs qui sont postés puissent les tirer. Or, d'habitude, à 90% avec les cerfs, les animaux fuient devant. Là, on ne sait pas pourquoi, il s'est retourné, il a chargé et il a tué le rabatteur. Un cerf, vous l'imaginez, ça a une ramure avec des bois et des andouillers. D'après, on appelle ça même des andouillers de massacre. Donc, ça dit bien ce que ça veut dire. Et quand vous avez un animal qui vous fonce dessus à ce qui fait 100, 150, 200 kilos, je peux vous dire que c'est excessivement meurtrier. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Un homme se fait tuer. Et vous avez sur les réseaux sociaux les gens qui applaudissent avec des propos ignobles du genre « j'en pleure de rire, c'est bien fait pour lui, à quand le prochain ?» On est dans un monde de fous. Et on a une inversion totale des valeurs, où on pleure sur la mort d'un cerf, mais par contre on rigole sur la mort d'un homme. On devient fou. L'animal, j'aime beaucoup les animaux, mais l'homme est au sommet de la création, et il est, dans ce cas-là, supérieur et de bien aux animaux, c'est clair. Vous ne sentez pas au sommet? Vous pensez l'égal du lapin, du sanglier ou du renard? Non, et j'admire ces animaux pour beaucoup de leurs capacités. Mais le sommet, c'est bien vous et moi. Et heureusement, d'ailleurs.
Guy Arlet de Fauve, chef d'entreprise, est le président de la Fédération de chasse du département de l'Oise. Ancien du FN, il est aujourd'hui élu de la région Hauts-de-France sur la liste de Xavier Bertrand, et il préside la commission Environnement. Il me reçoit à la maison de la chasse à Agnès. Et alors qu'il sort d'une réunion très officielle, je suis un peu surpris par son accoutrement. Il a des chaussettes par-dessus le pantalon qui lui montent jusqu'aux genoux.
Porter les chaussettes hautes?
Non, c'est parce que je vais à la chasse. Et puis attends. Ça, ces chaussettes vous permettent de mettre vos bottes rapidement.
Il me donne des magazines édités par sa fédération sur papier glacé, avec des titres comme « Du coup de fusil » au coup de fourchette. Je lui demande ce qu'il pense d'une éventuelle abolition de la chasse à courre, réclamée par les écologistes, qui la qualifie de pratique d'un autre âge.
Cher monsieur, un pays se bâtit sur ses racines. Tradition d'un autre âge, ça veut rien dire. C'est-à-dire qu'ils sont pour la protection des minorités, sauf nous. Nous, ils veulent nous éliminer, ils veulent pas nous protéger. D'autres minorités, ils veulent les protéger. D'autres minorités, vous entendez, minorités culturelles, c'est important, il faut préserver les langues régionales, en fait, tout ce qu'on entend. Mais comme nous, on veut continuer à faire vivre notre tradition, qui n'empêche, qui nuise à personne, parce qu'il faut quand même raisonner les choses. D'abord, il y a un problème économique. Qu'est-ce qui loue les forêts? C'est nous. Et puis si ça les dérange vraiment, qu'ils restent à vivre en ville, hein, si les cloches de nos clochers les dérangent, eh bien, qu'ils aillent vivre dans un autre où il n'y a pas de clocher. Et si le chant du coq les dérange, ben, qu'ils aillent vivre en ville, il n'y a pas de coq. Il y a d'autres bruits, mais ça, ils l'acceptent. C'est comme ça. La forêt, c'est aussi la chasse. Il y a de la chasse à courre. Bon, voilà. On est très impliqués dans la vie sociale de notre département. Très, très impliqués. Tous les ans, on fait une grande opération de France propre, on ramasse les ordures, on réimplante des haies, on suit les perdreaux et les faisans par radio pour voir ce qui se passe. Donc on apporte énormément. J'ai proposé au colonel de la gendarmerie et au préfet, qui ont accepté, parce qu'on a signé une convention ensemble, de créer chasseurs-vigilance, ce qui fait qu'on va mettre à leur disposition, là c'est en train de se faire, 250 oreilles et yeux qui vont être dans la nature quand eux n'y sont pas, à des heures où ils ne sont pas. On est, si vous préférez, les RG de la nature, les RG de nos campagnes. Et on a formé 75 gendarmes ici pour leur apprendre les armes de chasse, la réglementation, les espèces, en fait, tout ce qui suit. Et eux vont former nos 250 chasseurs vigilants.
Alors que je reviens de la forêt de Compiègne, je revois mon ami Marcan, qui me raconte une autre virée en forêt. Lui aussi est parti à la chasse.
Bien, en fait, j'avais l'envie d'enregistrer un cerf d'assez près.
Mais à la chasse, au son. D'être près de... Le son du brame du cerf.
Donc, je me renseigne un peu sur Internet.
Et je me dis que c'est une bonne manière de finir, en donnant la parole à cet animal, objet de tant de convoitises.
Pour emmener les gens, écouter le brame du cerf. Et puis du coup, je contacte cette personne... Puis je lui explique un peu ma démarche, que moi j'ai envie de vivre un peu une expérience, j'ai envie de me perdre un peu dans la forêt, tout ça. Je lui dis même que j'ai envie de dormir peut-être dans la forêt, enfin bon voilà, j'extrapole un peu. Et puis donc il m'emmène dans la forêt de Chambord. Donc il se garde sur un parking, et je vois qu'il y a beaucoup de voitures sur ce parking. Et au loin j'entends effectivement des brames, quoi. Donc il voulait simplement nous emmener à un observatoire là où il y avait beaucoup de gens. Et là je découvre en fait qu'on est dans une énorme réserve de cerfs et aussi de sangliers où ils parquent en fait ces animaux-là, soit pour les mettre dans d'autres forêts en fait. Quand il manque des cerfs, quand ils veulent repeupler un peu des forêts dans la France, en fait ils les prennent dans Chambord. Mais aussi j'apprends qu'en fait il y a des chasses à courre qui sont faites à Chambord, et en fait ces chasses à courre c'est des chasses présidentielles. En fait, c'est une réserve de chasse pour les présidents de la République. Comme à l'époque du roi, c'est totalement monarchique. Je crois que le dernier président qui est venu faire une chasse à courre, c'est Sarkozy. Donc en fait, on s'embrouille un peu avec la personne avec qui j'étais. C'est vrai que je lui dis, moi j'aurais bien voulu aller dans la forêt, tout ça. Et puis il me dit que c'est pas possible, en fait, tout simplement. Donc moi, je lui dis, écoute, voilà, moi je vais pas dans l'observatoire, j'ai envie de me balader, je vais aller écouter les cerfs ailleurs. Donc voilà, il me dit, bon bah vas-y. Je pars sur la route, puis après je prends un chemin, et là je me rends compte que tout est grillagé en fait. Donc quand même je passe ce premier grillage, et là donc je sens qu'il y a beaucoup de cerfs très très loin, et il y en a un dans la clairière qui est tout seul, et je me dis bon bah je vais aller le voir quoi. Je m'en rapproche, et puis là à l'orée de la forêt je sens une odeur mais très très forte, une odeur puissante d'urine en fait, de cerfs. Et là, je me dis, là, je suis vraiment chez eux. Là. Puis, petit à petit, en fait, je m'approche du cerf. Et quand il pousse son brame, c'est comme des chants, en fait. Voilà, c'est comme des chants. Et avec la résonance de la forêt, ça prend une sacrée dimension. Et lui, en fait, il sent que
il sent que je m'approche. Donc oui, il brame de moins en moins, en fait. Donc je m'approche, je m'arrête. Là, il brame. Et c'est là où je me suis dit que, bah oui, que je l'embêtais, bien sûr, que c'était... j'étais un intrus, en fait, dans sa clairière, parce que c'est pas moi qui l'appelais. C'était une belle biche, mais c'était moi qui étais là. Et il fait nuit noire, hein, je ne vois rien, il n'y a pas de clair de lune, j'ai que mon micro et mon casque, donc les sons sont amplifiés aussi dans mon casque, donc je commence à avoir assez peur, parce que quand il brame, il est très très près, je le sens très très près. Et puis entre les brames, je sens un peu son souffle, et là j'ai peur. Là je me dis, faut que j'arrête, parce que je vais me faire charger, en fait, en gros. Et puis je pars, en fait. Voilà, je pars, tout simplement. J'ai vraiment eu l'impression d'être un peu à Disneyland, en fait. À Chambord, c'est que tout le monde vient voir le cerf, et que tout est préparé, en fait. Du coup, la magie du roi de la forêt, telle que je me l'imaginais, elle est biaisée, quoi. En gros, je suis dans un parc à cerfs. Too soon, I don't know how to live without my hand on his throat. I fight him always and still. Oh, darling, it's so sweet. You think you know how crazy I am. You say you don't spook easy, you won't go, but I know and I pray that you will. Fast as you can, baby, run, free yourself up as fast as you can.
C'était La Revanche du Cerf, un reportage d'Olivier Minot réalisé par Delphine Lemaire avec un coup de main d'Alexandra Longuet. Merci à Marc-Antoine Granier, notamment pour ses sons du brame, à Violette, au collectif Ava, Alain Drache, à Guy Orlé-Dofov, à Marc Flamand, à Stéphane Mercier, à Élise Michaud, à Alexis Buisson et à Marielle Martinez. Sachez que depuis la première diffusion de ce reportage en décembre 2017, il y a toujours régulièrement en forêt de Compiègne des affrontements entre les veneurs et les militants anti-chasse. Sachez également que Guy Orlé-Dofov, qui est le patron des chasseurs de l'Oise, que vous avez entendu, élu des Hauts-de-France, défraie toujours la chronique, enfin régulièrement, avec des sorties sexistes ou extrêmes droitières. C'est Camille Richir, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Sarah Djeroui, notre stagiaire. Just need a little bit of courage.